Headline Radio. Tu as envie de passer une soirée découverte et musicale? Rejoins-nous au Pop Rock Festival de JI du 23 au 25 mai 2024 avec Charlie Winston, The Clive, Broken Back, Da Cruz, The Brains, Drop Dead Chaos. Toutes les infos sont sur poprockfestival.ch. Le Pop Rock Festival, c'est toi. Hello les amis de Redline Radio, vous désirez soutenir votre radio? Rendez-vous sur le site www.redlineradio.ch et faites bon usage du bouton Twint. Merci pour votre soutien. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Cliff Claff, l'émission pour réunir, partager et agir. Le mercredi, de 18h à 18h45 sur Redline Radio.
Mais quel plaisir de vous retrouver tous et toutes, vous, chers fidèles auditeurs, peut-être prisonniers comme ça, de votre carrosse d'acier. Vous nous écoutez derrière nos 1 et nos 0 du DAB, mais vous êtes peut-être les heureuses personnes déjà rentrées chez vous. Vous avez non seulement la possibilité de nous écouter, mais de nous voir. Ça se passe sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, la page Facebook de Redline Radio, ainsi que sur notre chaîne YouTube, où il est extrêmement important de vous y abonner. Nos chats sont ouverts. Vous avez une question, un commentaire, eh bien... N'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Après une petite et courte pause tout à fait agréable de Cliff Claff, on a la chance de reprendre cette émission. Bonsoir Alexia.
Bonsoir Alex, et oui, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre 10e émission. Et oui, déjà 10, on en a 50 à faire, donc il reste encore,
il y a encore un petit peu de route,
encore du chemin. Et ce soir, je suis vraiment ravie de recevoir Amélie Giroux et Annie Casser-Auvernay, qui sont toutes les deux avocates et coprésidentes de l'association ALBA, Avocate à la barre. Alors, cette association a été créée en 2001 dans le but de favoriser l'accès à la profession d'avocate par les femmes et de lutter contre les discriminations de genre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et pourquoi vous êtes devenue présidente de cette association ?
Bonsoir Alex, bonsoir Alexia. Merci de nous recevoir. C'est un réel plaisir d'être là ensemble pour vous présenter notre association.
Alors, c'est une association, vous l'avez dit, hein, qui a été créée en but de favoriser l'accès et l'exercice de la profession par les avocates en 2001, dans un contexte qui était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, dans lequel, en fait, les membres fondatrices de notre association se sont aperçues qu'elles vivaient des discriminations de genre qui étaient nombreuses, notamment dans le cadre de la rémunération, de l'intérêt des dossiers. Elles étaient cantonnées aux dossiers droit de la famille quasiment exclusivement. Elles avaient des dossiers moins intéressants. Elles constataient que les hommes... collègues, confrères avaient accédé à des dossiers plus intéressants, étaient nommés pour des plus gros dossiers, par exemple au pénal, et puis avançaient plus vite dans leur carrière. Puis, fortes de ce constat, elles ont réfléchi à ce qu'il fallait faire, et puis elles se sont dit que se constituer en association, ce serait peut-être une première étape. Puis, je crois qu'Amélie peut nous raconter un petit peu la genèse de l'association, la création.
Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé dernièrement avec certaines de nos fondatrices avec lesquelles on travaille sur certains projets. Elles nous ont rappelé qu'à l'époque, effectivement, c'était une toute autre époque. Et puis, quand elles ont fait cet appel aux femmes avocates, elles se demandaient si elles allaient avoir une réponse ou non. Et en fait, ça a été un énorme succès. Il y a presque toutes les femmes qui étaient inscrites au barreau à l'époque qui les ont rejoint. Elles se sont rencontrées et elles ont décidé de créer cette association. Et puis elles ont obtenu petit à petit ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire une répartition plus égalitaire de ces dossiers, les nominations d'office. Je ne sais pas si vous savez, les avocats, on est parfois nommés d'office pour représenter des prévenus au pénal, mais ça peut être aussi dans des procès civils. Et puis il y a une grosse différence de rémunération si on est nommé d'office pour un petit dossier, une révocation de sursis, ce qu'elles racontent qu'elles avaient beaucoup à l'époque, ou si vous êtes nommé pour représenter un assassin dans un procès pénal qui va avoir beaucoup d'ampleur et qui va durer des mois. Donc elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui que c'était directement, mais petit à petit elles ont fait valoir leur voix, elles sont allées à la rencontre de l'ordre judiciaire, elles ont discuté avec les personnes qui étaient en charge de l'organisation de l'ordre judiciaire, et puis il y a petit à petit ce système qui s'est mis en place de nomination d'office par comment on appelle ça quand on est, il y a un tournus, voilà, il y a un tournus qui s'est mis en place, et puis maintenant il y a des listes, et puis on choisit plus, les magistrats ne choisissent plus qui ils vont nommer, c'est à la suite sur cette liste. Donc, au niveau
donc plus
de
d'égalité plus, grâce d'égalité, à la création de cette association. Comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes entré, vous avez entendu parler à l'époque de cette association? Est-ce que, justement, les fondatrices, elles ont fait de la communication? Comment ça se passe? Est-ce qu'obligatoirement, quand on fait du droit, quand on est à la fac, on sait que cette association existe?
Et ben finalement pas tellement, non. Alors moi j'en avais entendu parler parce que j'avais à l'époque Non, j'en avais entendu parler parce que j'avais travaillé au bureau de l'égalité pendant mes études, donc évidemment, bah voilà, il y avait ce lien-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une période pendant laquelle l'association a essayé de se faire connaître et écrivait un courrier à toutes les jeunes avocates stagiaires qui étaient inscrites pour présenter l'association. Et puis en réalité, le nombre de membres du barreau a augmenté de manière assez drastique, donc ça a été difficile de suivre. Et puis là, on est dans une nouvelle vague depuis 2019, depuis la vague MeToo. On voyait un élan très très fort depuis 2019, qui fait qu'on a un peu pu renforcer notre association, enfin de manière exponentielle.
J'ai lu que vous étiez 280 membres aujourd'hui.
Absolument, ouais. 283,
déjà, on nous a dit. 283, donc c'est déjà assez conséquent pour une association basée ici, dans le canton de Vaud.
Et puis du coup, ça nous permet de faire beaucoup plus de publicité autour de l'association, notamment par rapport aux étudiants, étudiantes à l'université. On est allé présenter l'association à l'Université de Lausanne par le biais d'une de nos membres qui est aussi prof à l'Uni.
À Fribourg.
À Fribourg aussi, avec Elsa, l'association des étudiantes. Donc peu à peu, on commence à se faire connaître aussi de futurs membres, quelque part.
Oui, tout à fait, qui viennent éventuellement vous voir une fois qu'elles sont avocates stagiaires. Puisque pour faire partie de l'association, quels sont les critères ?
Alors, pour être membre actif de l'association, il faut être titulaire d'un brevet d'avocat. Et pour être membre ou avocate stagiaire, absolument, et peuvent être membres associés toute personne titulaire d'un brevet et tout avocat ou avocat stagiaire.
Donc je le rappelle, c'est vraiment une association professionnelle pour les femmes avocates. Hein, tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off, et vous me disiez c'est important pour nous de nous positionner comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Bon, c'est vrai qu'on a peut-être cet amalgame qui revient souvent, parce que comme on est des femmes et qu'on est dans le domaine du droit, on a beaucoup de sollicitations de la part d'associations qui œuvrent pour l'égalité à tout échelon de la société civile, en nous demandant des coups de main et de l'aide, et c'est effectivement pas le but de l'association. Il y a eu beaucoup de discussions au sein du comité sur où est-ce, jusqu'où on allait, mais on a finalement des statuts assez clairs sur le fait qu'on défend l'égalité au sein de la profession même, effectivement.
Et vous, personnellement, c'est un combat, l'égalité, qui vous a touché parce que pendant vos études, est-ce que c'est déjà quelque chose dont on vous a parlé, comment c'est venu pour vous, personnellement, pour vous deux ?
Je pense que c'est plutôt dans la pratique professionnelle que réellement l'université. Moi, j'ai pas l'impression qu'à l'université, on a attiré notre attention sur ce que ça pourrait représenter, ce que c'était. Je pense qu'on a toutes des expériences à des parcours différents, à des stades aussi de nos carrières différents, en fonction de l'âge où on a commencé. Excusez-moi. Moi, je dirais que c'est plutôt dans la pratique ou dans le quotidien de la pratique d'avocate, d'abord comme avocate stagiaire, puis comme collaboratrice en études, où on peut s'apercevoir de différences de traitement ou de problématiques de genre. Et puis c'est aussi en se regroupant, en discutant les unes avec les autres, on se rend compte beaucoup de ce qui se passe encore aujourd'hui. Enfin, il y a eu une libération de la parole dans toute la société, mais qui s'est aussi évidemment faite dans le contexte du barreau, et en partie grâce à l'association ALBA.
Ouais, absolument. On a vous demandé tout à l'heure comment on est entré dans l'association. Ben finalement, nous, on fait partie de la vague de 2019 qui s'est intéressée concrètement à l'association après cette vague-là. Mais à cette époque-là, ALBA était en train de réfléchir à comment attirer l'attention de l'ordre des avocats vaudois. Donc les avocats sont organisés en ordre, avec un bâtonnier qui préside cet ordre et puis un conseil de l'ordre. Donc c'est très hiérarchisé. Et puis ALBA essayait d'attirer leur attention sur les problèmes de harcèlement sexuel au sein du barreau, et avait invité des représentantes du barreau parisien pour venir nous parler de ça. Et je me souviens d'avoir assisté à cette conférence et de m'être dit, mais c'est dingue, le barreau parisien est beaucoup trop en avance, on est complètement en arrière, ça va pas du tout. Et ça a vraiment généré, en tout cas pour moi, mais je sais que chez énormément de femmes qui nous ont rejoint par la suite, cette envie de rejoindre le mouvement et l'association. Ça a vraiment eu un impact fort, cette conférence, et puis cette prise de position de l'ALBA. Et on a obtenu pas mal de choses, parce que finalement ça a eu lieu, et puis au sein de l'ordre maintenant il y a tout un système avec des personnes de confiance, et c'est pas du tout encore un système système parfait, mais au moins il a le mérite d'exister et puis ça permet de continuer les discussions.
Bien sûr. Alors vous parliez aussi des écarts salariales tout à l'heure. On sait qu'en Suisse, il y a encore à peu près 18% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. C'est la même chose au niveau des avocates. Est-ce que vous avez étudié la question ? Vous avez des chiffres à nous donner ?
Alors c'est assez spécifique parce que c'est une profession qui est aussi exercée par des indépendantes. Donc c'est une profession d'entrepreneur, donc c'est toujours difficile de comparer des revenus d'indépendantes parce que finalement ça dépend de nombreux critères, dont ce qu'on a pu constater nous parce qu'on a on a fait une formation d'ailleurs spécifique là-dessus sur la facturation, c'est qu'il y avait des biais de genre évidents dans la manière de facturer ces dossiers, où il y a une tendance, en tout cas on l'a constaté chez nos membres, à sous-estimer la valeur de son travail, à peut-être facturer moins, à avoir peut-être des scrupules à facturer certaines choses, à considérer qu'une autre aurait été meilleure ou un autre aurait fait ça plus vite, et à se retrancher soi-même. Donc ça, c'est des biais qu'on connaît et qu'on voit. Par contre, en termes de différence de rémunération, c'est très difficile à dire. Il y a aussi une omerta assez importante sur les rémunérations des unes et des autres et des uns et des autres. C'est pas forcément, les avocats sont pas forcément tous organisés en structure type grosse entreprise où vous pouvez facilement aller comparer le salaire d'une collaboratrice et d'un collaborateur. Vous avez toute forme de pratique avec des toutes petites structures d'une ou deux avocats avocates ou bien des énormes structures. Donc c'est difficile de comparer.
Ce qu'on peut voir. Là, on le retrouve un peu dans tous les métiers, j'ai envie de dire, chez les femmes. C'est un peu aussi
c'est ça,
ce problème-là, je dirais collectif en fait. Ça ne touche pas que la profession d'avocate.
Absolument, mais du coup les avocats ne font pas exception, on ne fait pas mieux.
Et puis peut-être que la force que nous on voit dans cette association, et c'est pour ça qu'on l'aime autant, c'est que de se regrouper, de pouvoir discuter de ces questions-là, notamment justement cet atelier sur la facturation qu'on a fait, c'était assez fort, où c'est des espaces qui sont réservés aux femmes, dans lesquels on peut vraiment s'exprimer, échanger librement sur ces problématiques-là, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit en fait finalement assez peu dans le reste de la société civile, un regroupement. Souvent on nous dit, mais finalement comment vous avez réussi à faire cette association. Alors nous, on a très peu de mérite, on a pris ce qui existait déjà, mais c'est vrai que c'était assez incroyable de la part de ces femmes en 2001 de dire, maintenant on va créer une structure et puis on va se réunir et puis réclamer ce qu'on veut.
C'était incroyable et nécessaire. Vous êtes toutes les deux fondatrices de votre propre cabinet d'avocates. Et vous me disiez que c'était vraiment important pour vous. Finalement, c'est une manière d'un peu de reprendre le pouvoir. Comment est-ce que vous le vivez personnellement ?
Extrêmement bien, c'est un vrai plaisir. Personnellement, mon étude qui s'appelle Sfera, étude d'avocate, on a mis un E à la fin de avocate, ce qui n'est pas le cas vraiment de toutes les structures, même si elles sont exclusivement féminines. Et c'était une réelle volonté de notre part de créer une structure féminine pour l'instant, pour pouvoir pratiquer ce métier à notre manière. On vient toutes d'études assez traditionnelles, dans lesquelles on a été formées, dans lesquelles on a exercé pendant un temps. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui nous déplaisaient ou qui ne nous correspondaient pas. Et on s'est dit, on va faire quelque chose, nous, à notre manière. Et on s'invente un peu une manière de travailler au féminin. Et puis, c'est vrai que cette profession, elle contient énormément de femmes. Il y a énormément de femmes avocates, mais il y a énormément de femmes avocates qui partent. Énormément de femmes, au bout de 4-5 ans, qui partent. Il y a un seuil comme ça des 10 ans où on dit, au bout de 10 ans, les femmes, elles ne s'accrochent pas, elles ne restent pas, parce que c'est un métier dur. Et puis,
donc elles font quoi ? Elles se reconvertissent après, ouais, dans un autre métier ?
Exact. Elles deviennent magistrates, elles deviennent juristes en entreprise, elles deviennent juristes à l'État. Et puis, c'est des femmes fantastiques qui ont des compétences dingues, mais pour qui elles ne se sont pas retrouvées dans le métier d'avocate.
Est-ce qu'il y a un lien également aussi avec peut-être la compatibilité entre la vie professionnelle et vie familiale, parce que c'est quand même un métier où c'est compliqué d'avoir des aménagements. J'ai envie de dire, si on veut réellement pratiquer ce métier, il faut y aller à fond, non ? Ou est-ce que vous-même vous voyez qu'on peut aménager du temps tout en étant avocate, temps partiel, si on veut avoir des enfants, élever ses enfants, enfin, comment ça se passe ? Comment vous voyez ça au sein des membres de votre association qui sont peut-être dans ce cas-là ?
Alors on a vraiment des expériences extrêmement divergentes et des avis très divergents sur la question. l'association, au sein même de l'association, au sein du comité. Il y a vraiment, je parle pour moi parce que je sais à quel point c'est différent, ça dépend de beaucoup. Si je parle de mon expérience personnelle, moi j'ai travaillé en entreprise, dans une grosse entreprise, j'avais déjà mon fils et puis après je me suis installée comme indépendante, on a créé l'étude et j'ai eu ma fille, donc maintenant j'ai deux enfants. Je dirais que pour moi c'est beaucoup plus facile d'envisager la conciliation vie professionnelle, vie familiale en étant indépendante que si j'étais employée en entreprise. Parce que j'ai cette flexibilité quand même. Oui, c'est un job qui est prenant. Oui, parfois, vous n'avez pas toujours la possibilité de choisir les moments de vos audiences. Mais il y a quand même une énorme flexibilité. Je peux être là le matin en principe pour les amener à l'école, en principe pour aller les rechercher. Et puis, je peux organiser mon temps comme je veux. Alors, c'est avec ses limites. comme je veux, ça signifie les mettre au lit puis retourner travailler parfois, souvent. Mais voilà, c'est cette flexibilité-là que je n'aurais pas. Je ne pourrais pas dire à un employeur, j'ai une activité pour mon fils, c'est mardi à 3h30.
Oui, mais c'est l'avantage.
C'est l'avantage. Donc moi, mon expérience personnelle, elle est vraiment de penser que cette indépendance-là, elle me donne beaucoup, beaucoup de flexibilité avec aussi les avantages et les inconvénients par rapport à quelqu'un qui serait en entreprise, qui est tenu par un horaire 8-18 heures et puis qui ne peut pas faire autrement. Donc c'est pas nécessairement ça qui est un frein. Par contre, un temps partiel, très partiel, ou si vous dites je voudrais travailler, je sais pas, à 40-50%, ça peut peut-être,
ça semble
beaucoup plus complexe. Donc ça, souvent quand même, il faut le dire, ça s'accompagne de taux d'activité qui sont plutôt élevés.
Absolument. Et puis je pense aussi que c'est vraiment pas que le côté conciliation vie privée, vie professionnelle qui fait que les femmes quittent la profession. Il y a un bout ça probablement pour certaines, ou alors par rapport à ce taux d'activité dont tu parles, mais il y a vraiment cette... Ça reste un bastion encore très masculin. Il y a peu de représentativité féminine. Si on voit les organes de l'ordre des avocats vaudois, il y a beaucoup d'hommes. On peine à faire aller des femmes dans ces milieux-là. Et puis nous, on a l'impression que les femmes, alors qui viennent à l'association puis qui nous entourent, c'est des femmes qui y trouvent leur compte et puis qui ont trouvé leur réseau et puis qui ont trouvé un peu leur crew, si on peut dire comme ça, puis qui s'épanouissent dans leur profession. Mais on peut imaginer quelqu'un qui a pas trouvé cette accroche-là, et Dieu sait que pour moi ça a été très important dans mon parcours de m'accrocher à cette association-là et de m'entourer de ces femmes-là. J'imagine que s'il y a quelqu'un qui n'a pas ça, on peut très vite se dire que c'est très solitaire.
C'est compliqué.
C'est un métier hyper solitaire.
D'où l'intérêt d'autres associations. C'est vrai que les hommes, on le sait depuis des années, se regroupent dans des associations.
Exactement.
Ça fait des décennies même que c'est le cas. Donc une association comme la vôtre, effectivement, ça permet de réseauter aussi. Et d'ailleurs, à propos de réseautage, vous proposez, je crois, une fois tous les deux mois, un événement où vous vous retrouvez.
Voilà. Quand on a intégré l'association en 2019, ça c'est notre coup de génie,
On
l'adore.
C'est notre bébé.
Voilà, exactement. On a créé ce qu'on appelle le Vert des avocates, qui a lieu tous les deux mois, un jeudi soir. Et c'est l'occasion de se retrouver entre concerts pour échanger, pour boire des verres. Parfois, on invite d'autres corporations. Alors, on a invité des procureurs, on a invité des juges cantonaux, des magistrates. Parfois, c'est des rencontres, parfois, c'est juste pour se voir. Et puis, c'est vraiment un événement qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est l'occasion de se rencontrer entre nous, d'échanger de manière informelle, de tout le monde se tutoie au sein de l'association, de pouvoir évoquer des dossiers, des difficultés ou toutes sortes de choses. On a une rubrique petites annonces. Alors, je disais, c'est pas pour placer ses chats, c'est plutôt si vous cherchez une collaboratrice, si vous cherchez quelque chose quelque chose en lien avec la profession d'avocate, un congé maternité à remplacer, quelqu'un qui puisse vous soutenir pendant votre absence. C'est vraiment des choses qu'on a mises en place et puis on y tient beaucoup parce que c'est vraiment là que les choses se passent, où vous pouvez venir chercher ce dont vous avez besoin, un soutien, une discussion. On a un programme de mentorat aussi qui est très plébiscité par nos membres. Qui est aussi
justement, vous parliez du soutien tout à l'heure avec ces femmes qui quittent la profession. Est-ce que justement, avant qu'elles quittent, vous arrivez peut-être à les récupérer et peut-être à les aider, ou je ne sais pas?
Alors, on a des sollicitations de personnes qui viennent nous voir en disant j'ai telle et telle problématique. On n'a pas une vocation de médiation ou de remplacer les structures existantes au sein de l'Ordre des avocats vaudois, mais clairement, ce genre de soirée, c'est l'occasion de venir dire ben voilà, j'en compte telle problématique, et vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez fait? On a par exemple fait une soirée, je ne sais pas si tu te souviens, vers des avocates, où on a fait venir notre commission santé-maternité, comme on l'appelle, qui ont un peu présenté ce qu'on peut faire en cas de maternité ou de pépins de santé, quels sont sont les trucs astuces, quelles sont les assurances, quelles sont les démarches à faire, un peu un cahier des charges comme ça à la disposition des membres. Et puis ça a eu un énorme succès, les gens ont discuté, les langues se sont déliées, il y a eu énormément d'échanges qui ont été faits à l'occasion de cette soirée, et c'est vraiment des moments pour des moments comme ça qu'on aime être dans cette association, parce que il y avait besoin. Je sais même que nous, quand on a fait notre stage et quand on a fait nos premiers pas dans la profession en tant que breveté, ça nous a manqué. Je ne le savais pas à l'époque, mais ça nous a manqué.
Oui, j'imagine. Alors, vous parliez du mentorat. C'est aussi important d'aider les jeunes quand on est déjà une avocate confirmée, fondatrice de son propre cabinet d'avocate. Est-ce qu'on peut prendre un peu sous son aile des jeunes avocates stagiaires qui ont besoin un peu d'aide, de conseils?
Oui, mais alors c'est pas que les avocats stagiaires. Alors vraiment, il y a tout plein de monde qui a envie d'avoir un mentor dans cette association. On a trouvé ça génial. Nous aussi, on veut nos mentors et on les demande. Mais alors effectivement, c'est absolument dingue l'engouement pour ce projet mentorat qu'on a mis sur pied. Il y a des binômes qui sont créés, et puis les avocates un peu plus chevronnées prennent sous leur aile, ou en tout cas établissent une relation de mentoring avec des plus jeunes. Et puis en fonction de leurs besoins, de leurs affinités, ça perdure ou ça, au bout d'un moment, ça s'arrête quand la relation est allée au bout du truc. Mais je crois qu'on a eu des très bons retours sur la dernière volée, en tout cas.
Oui, je crois aussi. Et puis ça contribue aussi à ce que les avocates aient envie de rester. Mmh. De voir qu'elles passent par des problématiques que d'autres ont rencontrées avant elles.
Et puis ça peut leur faire gagner du temps aussi sur...
Bien sûr.
Certaines réponses.
Ça peut donner du courage aussi, si vous passez dans une période peut-être un peu plus difficile dans votre pratique, où vous posez énormément de questions. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter? Discuter avec d'autres qui se sont posé les mêmes questions un peu avant vous, puis qui ont répondu en restant dans la profession ou pas nécessairement. C'est intéressant aussi. Enfin, c'est vraiment tous ces échanges qu'on plébiscite beaucoup, nous. Et puis moi, j'ai souvent des membres après les verres des avocates qui viennent me dire « J'en avais marre, j'avais envie de partir, je suis revenue, ça m'a reboosté. » C'est vraiment quelque chose qu'on entend, qu'on entend régulièrement, ce côté Jean-Paul. Même moi, hein.
Absolument. Moi,
c'est la force du collectif.
Il y a une énergie absolument dingue. Il faut qu'on vous raconte absolument un événement qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu seulement pour l'instant une seule bâtonnière de l'Ordre des Avocats Vaudois depuis la création de l'Ordre des Avocats Vaudois.
Qui est une des fondatrices d'Alba.
Comme par hasard. Très récemment, on a la chance d'avoir une nouvelle candidate qui s'est présentée pour le poste de vice-bâtonnat et qui sera du coup dans 2 ans bâtonnière parce qu'elle a été élue vice-bâtonnière. C'est une deuxième fondatrice d'Alba, et il y a eu un moment d'échange extrêmement fort au sein de l'association où elle est venue présenter sa candidature, et on avait invité à l'époque aussi Sandrine Giroux, qui est la vice-bâtonnière du canton de Genève, et il y a eu un échange aussi avec l'ancienne bâtonnière Antonella Cerighetti qui était là. C'était extrêmement fort, et il y a eu dans la salle vraiment énormément de femmes qui nous ont dit mais c'est génial d'avoir ces femmes, ces modèles, et ça nous donne l'envie de continuer et de participer aussi à la vie de l'association. Mais je crois vraiment, on parlait de l'association modèle tout à l'heure, le modèle féminin dans les professions où c'est très masculin, je crois que c'est essentiel pour faire avancer les femmes vers l'égalité.
Bien sûr, et c'est vraiment génial de trouver justement ça au sein de votre association et que vous puissiez organiser ces événements avec ces femmes modèles et qui sont inspirantes. Et vous organisez également des événements de formation. Qu'est-ce que vous proposez comme formation au sein de votre association?
Alors, on propose toutes sortes de formations qui vont de la formation professionnelle, juridique, avec vraiment des thèmes juridiques, formation continue, sur divers sujets en lien avec l'évolution du droit. Et puis, notre année 2024, on l'a placée sous l'angle du bien-être. On a appelé ça bien dans sa robe. Et en fait, toutes nos formations 2024 visent à promouvoir une meilleure conciliation vie professionnelle, vie privée,
un épanouissement
professionnel et personnel. On a commencé par la facturation parce que ça passe aussi par là.
Et que c'était extrêmement demandé,
vraiment c'était un besoin. Là début mars, on a une formation alors tout à fait différente. Il y avait ce qu'on a appelé l'atelier riposte, qui consistait, alors il y avait une part de riposte en termes
avec l'association riposte,
avec l'association riposte, voilà,
de self defense.
Mm-hmm. Et l'autre partie, c'était, et j'y ai participé, donc je devrais me souvenir,
l'épanouissement personnel avec j'ai effectivement oublié le nom de la personne qui nous a organisé ça, mais ça matchait avec l'acronyme ALBA, donc on devrait pouvoir le retrouver d'ici
Avocate
la fin.
Avocate brillante et ancrée, quelque chose comme ça. Et là, tout prochainement, on a une formation avec Romaine Jean qu'on adore. qui concerne la prise de parole en public, dans les médias, enfin, vraiment, qui est une formation que j'ai suivie, qui est extraordinaire. Et ça, on se réjouit vraiment que nos membres puissent y accéder.
On a vraiment besoin que nos membres osent aller dans les médias. Il y a vraiment cette crainte de l'avocate, j'imagine comme énormément d'expertes dans leur domaine, de dire non, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui saura mieux parler de ce sujet que moi. Et du coup, on voit, comme vous le savez, très peu de femmes à l'antenne, mais chez les avocates, c'est le cas aussi. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, au sein de l'association, quand effectivement il y a quelqu'un qui est sollicité par les médias puis qui nous dit oui, mais vous pensez pas que tel et tel serait plus, il y a une espèce d'engouement comme ça, un peu collectif, de lui dire mais non, vas-y, on l'apporte. Et cette formation qu'on propose, s'il y a des membres ALBA qui nous écoutent, allez-y. Parce qu'elle est géniale. Ça permet de donner les bases et d'encourager ces femmes à se lancer.
À se lancer, à prendre la parole, à venir dans une émission de radio, par exemple.
Mais quelle excellente idée. Moi, je suis quand même assez. Comment est-ce que je vais dire ça? Surpris. Le fait que vous me disiez, les avocates, on ne va pas forcément dans les médias. Moi, c'est peut-être un cliché que j'ai de l'avocat ou de l'avocate, où c'est des gens assez exubérants, comme ça. Enfin, monsieur le président, un côté théâtral, comme ça. Est-ce que vous arrivez à mettre des raisons pour lesquelles, justement, typiquement, des avocates ou avocats peinent, justement, à aller dans les médias? Est-ce qu'il y a une raison?
Alors pour les avocats, je ne saurais pas dire. Pour les avocates, il y a vraiment cette espèce de syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice.
L'impostrice. C'est bien.
Devrait avoir un féminin. Pour ça, mais si je te dis un ténor du barreau, par exemple, un ténor, si tu réfléchis à la posture de l'avocat ou à la position de l'avocat, le ténor du barreau, spontanément, on pense pas nécessairement à une femme.
Non, c'est sûr.
Tu vois, mais... Dupont de Moretti, si je te dis ténor du barreau comme
totalement.
Ça, hein, spontanément. Et du coup, il y a un peu ce syndrome-là. Et puis, il y a peu de... plus on aura, plus on ira.
Bien sûr. C'est et ça. Puis, il y a les qualificatifs aussi. Tu dis à un homme, tu vois, tout de suite le biais de genre, il y a un avocat qui se présente, qui commence à parler. Tu imagines quelqu'un qui a très carré d'épaule, qui a une voix basse et puis qui prend de la place. C'est vraiment le cliché de l'avocat masculin. Mais en fait, il y a énormément de femmes avocates qui n'ont pas ces caractéristiques-là et qui sont des plaideuses pairs, qui sont des théoriciennes dingues, qui sont des juristes expérimentés. Et du coup, cette caractéristique-là de l'avocat, notre association, elle a essayé aussi de la casser, cette représentation-là de l'avocat. Et on peut être une avocate extrêmement compétente et avoir très 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 peur d'aller parler à la télé.
Un peu très 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 timide.
D'où l'intérêt de faire des formations.
Voilà, exactement.
Pour un peu démystifier un peu tout ça aussi, parce que des fois on peut être impressionné quand on n'a pas l'habitude. Pourtant, effectivement, vous, quand vous plaidez, justement, est-ce que vous avez des exercices? Est-ce que vous proposez aussi des formations, non pas pour aller parler dans les médias, mais pour savoir parler au sein d'un tribunal ou prendre la parole plutôt dans le cadre professionnel?
Que ça a été fait. On a eu proposé ça.
C'est une comédienne qui est venue nous proposer cette formation de prise de parole, effectivement.
Donc, c'était pas une avocate, c'est une comédienne qui est venue.
Comédienne avocate.
Avocate, quand même.
Exactement. Joindre l'utile à l'agréable, voyons.
On a de tout. Mais notre association et l'Ordre des avocats ne proposent pas spécifiquement de la formation continue pour la prise de parole, mais dans le cadre du stage, quand on se forme comme avocat, il y a des conférences qui sont données sur ce genre de sujet. Mais je dirais que quand on entre dans un tribunal et qu'on enfile notre robe, il y a un peu une prise de rôle. Il y a aussi quelque chose de très théâtral. On entre complètement dans le personnage de l'avocat, on entre dans notre dossier, et puis c'est très différent de la prise de parole dans les médias.
Donc l'habit fait le moine ou la moinesse, enfin je sais pas comment dire.
Après, impostrice qui existe, donc hein, vraiment impostrice, ce mot, c'est vrai que c'est assez difficile. La question qui me tarabusque depuis le début de cette émission, vous êtes avocate, pour moi il y a aussi clairement une représentation de la justice, mais en fin de compte, vous êtes un petit peu, dans ce que je comprends, en train de vous battre contre quelque chose dont vous pratiquez le métier. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est où la justice là-dedans? Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression que vous avez entamé cette émission en disant même chez les avocats, c'est pas très équitable. Pourtant, pour moi, les avocats, les tribunaux, tout ça, c'est la justice. Et puis, même au sein de la justice, il y a, d'après vous dire, de l'injustice. Oui. Comment est-ce qu'on se motive à être encore avocate en se disant mais nom d'une pipe ou putain, oui, parce que c'est vrai, on n'est pas à la RTS. C'est pas juste en fin de compte. Pas tout en même temps.
Elle n'est pas facile, ta question.
C'est vrai. Alors, pendant ce temps que nos invités réfléchissent, si vous avez une question, un renseignement sur Redline Radio, un seul site internet, www.redlineradio.ch. Amélie.
Écoute, moi je trouve que mon moteur le plus fort, en tout cas, c'est l'échange avec les avocates. C'est un peu par hasard que finalement Annie et moi on s'est rencontrés. On est entrés en même temps au comité Alba, mais aujourd'hui tu nous vois là, on peut se faire des discours à deux, on est très complémentaires, on est devenue co-présidente alors que ça se faisait pas avant dans l'association. On a demandé à avoir cette place d'ailleurs parce qu'on a compris à quel point on se complète. Il y a typiquement avec Annie, j'ai des échanges qui me motivent à demander l'égalité au sein même de cette profession, et j'ai ça avec des dizaines d'avocates autour de moi. Je crois que c'est le moteur le plus fort, c'est l'échange, et c'est ce qu'on peut recommander à toute personne qui se sent dans une situation de discrimination, c'est d'aller voir juste la personne à côté d'elle, ce qu'elle vit, et elle va se rendre compte que en fait, il y a énormément de choses similaires, les femmes vivent énormément de choses similaires, et ça fait leur force, je pense.
C'est un métier dans lequel on se bat pour nos clients, on se bat pour nos clientes, pour nos clients on se bat, enfin c'est l'essence même du métier. Je pense que c'est important aussi qu'on se batte aussi pour nous, et puis qu'on se dise que ce qu'on fait pour nos clients, nos clientes, on va le faire, on va pas hésiter à se battre pour nos clients et puis aller réclamer ce à quoi ils ont droit et puis à combattre l'injustice. Je trouve que c'est aussi important de se dire ben cette opiniâtreté là, on peut la mettre aussi pour nos consoeurs, pour nous. On le fait plus volontiers, d'autant plus si c'est pour une de nos consoeurs, c'est-à-dire que si tu es
absolument,
si on te soulève une problématique, une de tes concerts ou une membre de l'association a vécu, t'auras plus envie d'aller te battre pour elle que tu l'aurais fait pour toi-même. Du coup, d'où la force du collectif aussi. Et puis parfois, on se rend pas toujours compte, ça peut être assez sournois, en tout cas assez caché, la discrimination ou l'injustice. On l'aperçoit pas toujours quand on en est victime, ça on le voit aussi beaucoup avec nos clientes et clients. Et du coup, des fois, juste d'en parler à quelqu'un d'autre, l'autre va te dire, mais ça c'est pas ok. Ça va pas, ça devrait pas être. Donc ça aide aussi.
Oui, et tu sais, il y a juste, il y a encore un autre élément qu'on relève aujourd'hui, c'est que on a des résultats. C'est-à-dire que quand on adresse certaines choses à l'ordre des avocats vaudois ou à l'ordre judiciaire, on a obtenu certaines choses. Il y a des choses toutes bêtes. Je sais pas si vous avez entendu parler de la grosse blague des soutiens-gorge en prison. Les femmes avocates, à une certaine époque, jusqu'à il y a en fait très peu de temps, devaient enlever leur soutien-gorge à baleine pour entrer dans les prisons parce qu'on sonnait dans les portiques. Et on a fait des pieds et des mains. Alors nous, on est arrivé juste à la fin du combat quand on a pris la place de la présidence, mais on a obtenu que les femmes avocates n'aient plus besoin d'enlever leur soutien-gorge pour aller voir leurs clients en prison. Ça peut paraître très anecdotique, mais c'est quand même énorme. Et d'être entendue, c'est vraiment exceptionnel. Et récemment, alors nous, on a obtenu autre chose. Ça fait longtemps qu'on aimerait que l'Ordre des avocats se saisisse de ces questions d'égalité. Et récemment, on a pu collaborer à la création de la commission égalité au sein de l'Ordre des avocats vaudois, qui est en train de se mettre en place et qui vient de prendre ses fonctions et qui est en train de s'organiser. Et ça, c'est exceptionnel parce que toutes ces questions qui nous reviennent en tant que femmes, membres de cette association, très souvent on est assez démunis dans les moyens, hein, et puis on va pouvoir avoir un organe auquel relayer ces problématiques-là, et ça, c'est très fort.
Vous allez en faire partie, vous allez vous engager dans cette commission, il faut être nommé, comment ça se passe pour
On a une membre du comité d'Alba qui a un siège.
Qui a un siège.
Contexte de cette commission, puis on en est très contente parce que ça veut dire que l'Ordre des avocats se saisit de ces questions et a pris la mesure de la nécessité de traiter ces questions-là et de les mettre au centre de ses préoccupations aussi. Donc il n'y a pas que nous dans notre petit coin qui faisons des choses, mais il faut aussi reconnaître qu'au stade de l'Ordre des avocats vaudois, ben, ça bouge, qu'au niveau de la Fédération suisse des avocats, il y a une fédération suisse qui regroupe tous les avocats qui pratiquent le barreau en Suisse, ça bouge aussi. Il y a aussi une présidente qui a été présidente pendant 2 ans, qui vient de céder sa place. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont aussi mises en place par rapport à ça. Donc c'est pas qu'à notre petit niveau à nous, on voit aussi que ça...
Mais voilà, ça fait boule de neige à tous les échelons.
À tous les échelons, et ça c'est fondamental aussi, on n'y arrivera pas seul.
Bien sûr. Est-ce que, on fonctionne beaucoup par canton, hein, ici en Suisse, est-ce que justement vous avez identifié d'autres associations avocates dans d'autres cantons avec lesquelles vous avez des liens? Est-ce qu'il s'est créé, sur Genève par exemple, une association telle que la vôtre?
Il n'y a que nous.
En Suisse, il n'y a que nous.
Mais on a des membres genevoises. On est allé à la pêche aux membres.
Pas que genevoises. Il y a vraiment du monde qui vient de Genève, de Valais, de Fribourg, de Neuchâtel.
Exactement. Tous les cantons romands.
Donc, si on est avocate, on n'est pas obligé d'être dans le canton de Vaud pour faire partie d'Alba.
Exactement. On peut être pratiqué en Valais et faire partie d'Alba.
Il faut pratiquer en Suisse romande, en français. C'est la règle qu'on a posée. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir une marge de manœuvre dans le canton dans lequel sont nos membres, et on ne s'est pas senti d'aller
à Schwitz,
en Suisse allemande,
faire des verres des avocats.
La Suisse primitif, naturellement.
Mais on adorerait que les autres cantons s'organisent, on aimerait beaucoup se dire que d'autres pourraient s'organiser aussi. Finalement, nous, on est à disposition pour fournir, pour nous fournir notre expérience de création.
Vous êtes un bel exemple, en tout cas, d'engagement. Vous avez déjà plus de 20 ans déjà d'existence, donc voilà. Et puis, comme vous disiez aujourd'hui, vous avez des résultats, une commission au sein de l'Ordre des avocats sur l'égalité qui s'est créée. Ça, c'est fantastique, je trouve.
Eh bien, la question que tout le monde se pose, justement, c'est si on aimerait, je suis jeune avocate qui habite là, je m'appelle Jacqueline, j'habite là dans la rue, j'aimerais pouvoir obtenir des informations sur ce que vous faites, où est-ce qu'on peut simplement prendre contact avec vous?
On a un site internet www.alba-vd.ch. Vous m'en voudrez pas si c'est faux, mais je crois que c'est
non,
juste.
C'est absolument correct. Et il y a un formulaire pour devenir membre, mais
et
aussi une adresse mail pour juste prendre contact avec nous sans problème.
On a un profil LinkedIn, un profil Insta, un profil Facebook même.
Absolument. Et n'hésitez pas, si Jacqueline, vous êtes titulaire du brevet d'avocat, de nous rejoindre à notre prochain verre des avocates qui aura lieu le 30 mai prochain avec les juges cantonales. Toute personne de sexe féminin ou qui s'identifie au sexe féminin titulaire d'un brevet d'avocate est bienvenue à cet événement qu'on appelle le verre des avocates.
Et l'association offre le premier verre
uniquement aux membres, hein,
non,
si
aux membres, non. Et aux non-membres.
Ah, et aux non-membres, mais exactement. À condition qu'elle soit avocate en devenir.
Titulaire ou déjà avocate, voilà. Mais qu'elle ne pratique pas nécessairement le barreau.
Une autre question, et puis on terminera aussi avec ça. Moi, je souhaite une avocate, j'aimerais une avocate pour me défendre. Est-ce que vous avez un répertoire des avocates qu'on peut trouver sur votre site, avec peut-être des spécialités qui sont là?
Exactement, on a sur le site internet une liste de nos membres, avec toutes les membres, et puis si vous cliquez sur les membres, il y a les spécialités et les langues, le canton de pratique, et puis les langues qui sont parlées. Et puis il y a un moteur de recherche qui vous permet, si vous cherchez quelqu'un de spécifique qui parle suisse allemand et qui pratique en droit de la construction, en principe vous pouvez faire cette...
Je crois pas que tu peux faire
peut-être
la
pas
double
la double recherche.
Mais
bon, tu peux choisir celle qui parle allemand et ensuite choisir... enfin, en tout cas, il y a un moteur de recherche.
Par contre, je pense qu'il est... ça va encore plus loin, je pense que si tu as un problème en droit de la construction et que tu tapes construction dans le moteur de recherche, ça va te sortir les avocates qui font du droit de la construction et que tu peux contacter.
Et puis après, nous, on a toujours à cœur de relayer, c'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, si moi, je suis contactée par quelqu'un qui cherche une avocate qui va faire du droit fiscal, ce que je ne pratique pas du tout, eh bien, je vais l'envoyer spontanément chez une membre d'Alba dont je sais qu'elle fait du droit fiscal et que je connais, évidemment. Donc, je ne vais pas laisser les gens dans le flou, je vais toujours relayer vers quelqu'un dans la mesure du possible.
Eh ben, écoutez, on arrive en fin de notre émission. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais simplement rappeler que la semaine prochaine, le jeudi 25 avril à 19h, le CLAF tiendra son assemblée générale à laquelle vous êtes cordialement invité. Ce sera de 19h à 20h30 à la Maison de la Femme. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec qui, ma chère Alexia? Moi, je pensais que tu allais annoncer d'abord ton invité et puis ensuite ton assemblée.
Bien, l'invité de la semaine prochaine sera Françoise Salamé-Gay, la présidente des femmes PLR Vaud, donc une association politique.
On se réjouit. Merci en tout cas à tous et à toutes. Si vous faites malheureusement partie des malheureuses personnes qui avaient raté ce direct, et bien qu'à cela ne tienne par le truchement de la technologie, vous retrouverez cette émission sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On va se quitter en musique parce que sur Redline Radio, on adore la musique et on part avec Azora et puis ce titre, Another Shot. Excellente soirée à toutes et à toutes. Merci les invités. Merci Alexia. Excellente soirée à tous. Ne partez pas trop vite parce que dans un tout petit moment, bien sûr, on retrouve Boulevard Helvétique. Allez, excellente soirée à tous et à toutes. À bientôt. Ciao. Come I just popping. This is our way to celebrate our bodies. Dashes defining our own shape. Cause we never be more free and prouder than this. This is